Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Zone de Contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Avec Zone de Contact, montez sur le ring pour faire face aux évolutions géopolitiques mondiales. Au programme aujourd'hui, le ministre russe des Affaires étrangères qui est venu en visite en Afrique du Sud, le Burkina Faso qui a donné un mois aux militaires français pour quitter le pays, le président algérien qui remet à sa place un ancien ambassadeur français, et l'Occident qui crée des obstacles à l'exportation de céréales pour ensuite accuser la Russie. Le premier ministre de la République centrafricaine était en visite à Moscou. Dans un entretien exclusif pour Zone de Contact, il a évoqué les perspectives de développement de la coopération russo-centrafricaine. Le Parlement européen a adopté une résolution pour créer un tribunal spécial contre les actions de la Russie et de la Biélorussie en Ukraine. L'eurodéputé Hervé Juvin commente à notre micro cette décision. Restez à l'écoute, notre voyage informatif commence! On démarre notre revue d'actu aujourd'hui par l'Afrique du Sud où le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé ce lundi 23 janvier en visite officielle. La rencontre du ministre russe des Affaires étrangères avec son homologue sud-africaine Naledi Pandor a été suivie par une conférence de presse conjointe. Interrogé par Sputnik sur les tentatives de Washington d'intimider les nations africaines pour empêcher leur coopération avec la Russie, M. Lavrov a déclaré que l'Amérique intimide non seulement les nations africaines, mais aussi les pays d'Asie et d'Amérique latine, heurtant ainsi leur fierté. Selon lui, la seule chose qui intéresse l'Occident, c'est d'établir son propre ordre dans différents pays sous couvert de la diffusion de la démocratie. Et la guerre de l'Occident contre la Russie n'est plus hybride, elle est presque réelle, a ajouté Sergueï Lavrov. Pour sa part, Naledi Pandor a abordé le problème de la réaction occidentale aux exercices navals conjoints de la Russie, de l'Afrique du Sud et de la Chine en février. La ministre a rappelé que de tels exercices avec des pays amis sont une pratique normale. Il peut y avoir aucune pression de la part de pays tiers dans ce domaine. En ce qui concerne le deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra au mois de juillet de cette année à Saint-Pétersbourg, M. Lavrov a déclaré que cet événement conduira leurs relations vers de nouveaux horizons. Il a également annoncé l'intention de la Russie et de l'Afrique du Sud de créer des mécanismes commerciaux indépendants des caprices de l'Occident. Cette visite de Sergueï Lavrov en Afrique du Sud, qui comprend également une rencontre avec le président du pays Cyril Ramaphosa, est la première étape de sa tournée en Afrique. On poursuit avec l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune, le président du pays, a réagi avec fermeté à une tribune de l'ex-ambassadeur français Xavier Driancourt, qui a été en poste à Alger à deux reprises. Le 8 janvier, dans les colonnes d'un journal français, le diplomate avait déclaré que l'Algérie nouvelle était en train de s'effondrer et allait entraîner dans sa chute la France. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue aux yeux d'Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État algérien a démenti les allégations de M. Driancourt. Pour le président Tebboune, les choses sont tout autres. Il a signalé que l'Algérie a enregistré une croissance de 4,1% en 2022 et que ces bons chiffres devraient se confirmer en 2023 avec une croissance qu'il a estimée à 5%. Avant lui, c'était le numéro 2 algérien qui avait répliqué aux propos de l'ex-ambassadeur français. Selon Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, ce type de déclaration rend compte que les idées du néocolonialisme sont toujours présentes, tout comme leurs adeptes. On continue avec les dernières nouvelles de l'accord céréalier. Dmitri Boulatov, chef de l'Union nationale des exportateurs du secteur alimentaire, a dénoncé les entraves mises en place par l'Occident sur les exportations de céréales russes. Selon lui, ce sont ces mesures artificiellement créées par l'Occident qui déstabilisent le commerce international. M. Boulatov a souligné que les accusations faites à l'encontre de la Russie sont infondées. Pour rappel, ces restrictions concernent l'interdiction de livrer des semences, des produits phytosanitaires et des pièces de transport, mais aussi la déconnexion des banques agricoles du système SWIFT et le blocage des réserves de change. Face à cette situation, quelle issue? Vassili Ouzoun, professeur de l'Académie russe de l'économie nationale du service public auprès du président de la Fédération de Russie, estime que la transformation des céréales en farine, en pâte ou en produits de boulangerie serait beaucoup plus rentable. Toutefois, il a rappelé que cela prend du temps. Enfin, il a fait savoir que la Russie a augmenté ses exportations vers l'Inde, la Chine et l'Afrique, et que celles-ci accroîtront encore. En 2022, la Russie a réalisé une récolte de céréales record avec un volume d'environ 154 millions de tonnes, ce qui laisse entrevoir des perspectives prometteuses. On termine par un détour au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a pris la décision de dénoncer l'accord de 2018 qui portait sur la présence des militaires français sur son sol. Conséquence, Paris dispose d'un préavis d'un mois pour retirer ses soldats du Burkina Faso. Ces derniers mois, plusieurs manifestations ont eu lieu à Ouagadougou pour exiger le retrait des militaires de ce pays sahélien qui héberge un contingent de près de 400 forces spéciales françaises. Selon une source proche du gouvernement, cette décision ne concerne que les accords de coopération militaire. Ce ne serait pas une rupture de toutes les relations avec la France. Néanmoins, Emmanuel Macron a déjà réagi à cette annonce du Burkina Faso. Le chef d'État français a dit attendre des clarifications de la part du président de la transition, Ibrahim Traoré. Chers auditeurs, vous écoutez Zone de Contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant. La demande du Burkina Faso pour le retrait des troupes françaises vient confirmer le déclin de l'influence de Paris en Afrique. En août dernier, les troupes de l'Hexagone ont quitté le Mali et mi-décembre, les militaires français se sont retirés de Centrafrique. Félix Moulois, le premier ministre de la République centrafricaine, était à Moscou la semaine dernière. Quel but s'est-il fixé en effectuant cette visite de travail dans la capitale? Quelle perspective pour la coopération russo-centrafricaine? Le chef du gouvernement centrafricain nous fait l'honneur de répondre aux questions de Zone de Contact. Écoutez notre entretien.
Monsieur le Premier ministre Félix Moulois, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à l'agence.
C'est toujours un honneur et un plaisir d'être avec vous à chaque fois que je viens ici en Russie.
Bon, alors, commençons avec les questions. Alors, quels sont les objectifs concrets de votre visite en Russie cette fois-là? Et quels représentants russes souhaitez-vous rencontrer?
Bon, mais je suis venu en Russie, c'est suite donc au forum de juin passé, forum économique, au cours duquel j'ai eu des échanges sur des questions économiques. Et aussi, c'était pour moi aussi l'occasion de remercier le président Poutine, le gouvernement et le peuple de la Russie, de la Fédération de la Russie, pour tous les appuis que la République centrafricaine a bénéficié. Ces remerciements, je les exprime au nom du président de la République, professeur Vincent Kanchpadera, au nom du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, et aussi au nom du peuple centrafricain, parce que la Fédération de la Russie représente pour nous un pays ami, un pays frère. Je voulais juste rappeler que lorsque la République centrafricaine traversait des moments difficiles, surtout au point d'être déstabilisée par les groupes armés, le président de la République, professeur Fossa Kajpadera, a lancé un appel à tous les pays frères pour solliciter donc leur concours pour protéger la démocratie en centrafricaine. La Fédération de la Russie était l'un des pays qui a promptement réagi et qui a contribué donc au rétablissement de la démocratie en République centrafricaine. Et là, le peuple centrafricain ne pourra jamais, jamais du tout oublier donc cet acte posé par la Fédération de la Russie et également d'autres pays tels que Rwanda. Aujourd'hui, vous savez, sur cette étendue, si des groupes armés quittent les frontières et progressent jusqu'au niveau de la capitale, vous voyez le dégât que ça devait être si le pays était déstabilisé. Alors maintenant, aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée. La population peut circuler librement. À l'époque, on faisait croire sur les réseaux sociaux et dans d'autres médias que le gouvernement centrafricain ne contrôlait que 20% du territoire. Aujourd'hui, le langage a changé. Grâce donc aux insurgés russes qui ont été mis à la disposition de la République centrafricaine et dans le processus le plus normal, parce que appuyé et accepté, adopté par le Conseil de sécurité. Ces insurgés russes ont fait un travail extraordinaire en encadrant donc les forces armées centrafricaines, en formant des jeunes aujourd'hui, ils sont capables de défendre le territoire, capable donc de protéger la population. D'ailleurs, je vous informe que la population de plus en plus sollicite la présence donc, de ces éléments aux côtés des FACA et qui aujourd'hui ont mis en déroute donc, ces groupes armés et qui se sont constitués maintenant en des bandes de groupes, de groupements de bandits. C'est le grand banditisme. C'est la question qu'il faudrait même se poser, c'est que ces groupes armés disent parler au nom de la population. Ces groupes armés, disent-ils, défendent des intérêts de la population, mais c'est eux qui créent des problèmes à cette population, hein, qui dépouillent cette population, qui tuent cette population, qui créent des exactions du droit de l'homme sur cette population. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est qu'on en parle peu. On met un focus de manière générale sur le groupe Wagner. Bon, nous, ça constitue pour nous de la désinformation. Parce qu'au fait, ces groupes armés commettent des exactions vraiment, si on les recense, ça crée énormément. Donc, des problèmes au sein de la population qui d'ailleurs à chaque fois demande au gouvernement de faire venir très rapidement les FACA et les éléments donc, de la justice. Alors donc c'est l'occasion encore une fois de plus pour moi chaque fois que j'ai pu avoir cette opportunité de le dire de vive voix. En tout cas merci à la Fédération de la Russie qui ne cesse de nous apporter ce concours, ne cesse de nous aider à améliorer les conditions sécuritaires. Maintenant, il faudrait qu'on aille au-delà de cela. C'est pour ça, c'est l'objet même de ma visite, de travail.
Pourriez-vous nous donner quelque chose de concret de votre visite?
Oui. Ben, aujourd'hui, nous avons devant développer d'autres aspects de projet, notamment au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie. Vous voyez, quand on amène la sécurité, il faudrait renforcer la résilience. Il faudrait créer des conditions pour que la population participe donc au développement donc du pays. Et à la croissance. Donc aujourd'hui, c'est ce langage que nous voulons tenir. C'est vrai, on n'a pas complètement réglé les problèmes sécuritaires parce que nous avons encore à nos frontières des tentatives de déstabilisation qui se poursuivent. Et d'ailleurs, c'est en cela que le chef d'État, comme c'est un homme de paix, un homme de dialogue, tend toujours la main. Et nous pensons qu'avec la coopération avec nos pays voisins, nous devons aller vers les commissions mixtes pour régler définitivement les questions donc, de sécurité à nos frontières. Donc aujourd'hui, c'est ça. Il y a des infiltrations de ces groupes armés qui viennent non seulement se servir sur les zones d'or, qui viennent dépouiller les populations, qui tuent, qui prennent en otage. Vous voyez, ça pose énormément de problèmes. Alors qu'à l'époque, lorsque les gens prennent des armes, c'était justement pour revendiquer que leurs zones étaient laissées pour compte. Aujourd'hui, le gouvernement, avec l'appui de la communauté internationale, travaille dans ce sens. Et on se pose encore des questions. Comment les gens vont aller travailler sur les routes et qu'on les prenne en otage? Il y a toute une contradiction que nous ne comprenons pas. Mais nous pensons que, avec la coopération que nous sommes en train de renforcer avec tous les pays amis, et je dis tous les pays amis, ceux qui sont de bonne foi, qui attendent la souffrance du peuple centrafricain et qui veulent aider, nous sommes dans les bonnes dispositions pour renforcer donc, notre coopération. Et c'est pour ça que je suis là, ici, en Russie aujourd'hui.
Quel est l'ordre de jour de votre séjour là? Quel représentant vous allez rencontrer?
Bon, je sors là aujourd'hui tout de suite d'une. Des échanges très fructueux avec le vice-ministre des Affaires étrangères, à l'absence du ministre des Affaires étrangères, avec qui nous avons eu vraiment des discussions très très approfondies sur les types d'actions que nous pouvons déjà prendre pour, dans le cadre du développement économique. Alors donc, comme je l'ai dit, je suis là d'abord pour les remercier. Nous remercier donc tous les instructeurs. Et certains, certainement, ont perdu leur vie sur nos territoires, mais c'est pour de bonnes causes. Et nous compatissons avec. Et donc, oui aussi, commencer à réfléchir parce que, vous savez, on peut avoir les idées de projet, mais il faut poursuivre les discussions pour renforcer, pour donner la forme, comme c'est un processus. Donc, je suis là pour le suivi de ce processus.
Ok, est-ce qu'il y a des projets concrets dont on peut déjà parler?
Oui, mais il y a des projets concrets tels que l'agriculture, parce que nous pensons que si, avec l'appui de la Russie, si nous pouvons déjà avoir des équipements pour mécaniser notre agriculture, ça va être un plus, parce que le président Fossakash Tadera considère donc le secteur agricole comme le levier de la croissance. Alors donc, ça permettra de lutter contre l'insécurité alimentaire avec les crises que nous connaissons, les crises climatiques, les crises sécuritaires, et malheureusement aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et les impacts sont énormes sur le panier de la ménagère. Donc aujourd'hui, il faut développer cette résilience, étant donné que nous avons un pays à haute potentialité. Donc nous aurons besoin de l'expertise aussi des pays amis, et nous avons besoin de transfert de la technologie, et puis maintenir aussi les questions de sécurité. Donc voilà ces questions que j'ai commencé à discuter donc avec les autorités de la Russie, qui sont très très attentives et qui sont dans les bonnes dispositions donc de nous accompagner.
Et justement, vous avez parlé du secteur agricole. Alors, dans le cadre agro-industriel, comment est-il prévu d'étendre cette coopération? Est-ce qu'elle a commencé? Et quel est le chiffre d'affaires des produits agro-industriels entre la Russie et la RCA de l'année prochaine?
Comme je l'ai dit, les idées sont là. Et aujourd'hui, nous essayons de voir comment on peut mettre ça en forme. Voilà, mettre en forme. Et nous avons dans nos discussions pensé comment on peut avoir de l'expertise, parce que nous travaillons déjà avec d'autres partenaires sur les questions agricoles. Nous avons déjà quelques équipements. Nous sommes en train de mener des projets pilotes. Il faut l'étendre parce que, vous savez, nous avons 623 000 km², nous avons toutes les conditions aujourd'hui pour développer l'agro-business. Alors donc, nous avons besoin de l'expertise de la Russie. Les échanges aujourd'hui que nous avons menés font état de ce que, comment on peut avoir de l'encadrement et comment on peut avoir des équipements pour élargir en grande échelle donc les projets pilotes que nous sommes en train de mener.
Et est-ce qu'on peut parler d'une visite des experts russes dans ce domaine dans l'avenir proche?
Exactement. Dans les prochains jours, je vais prochains jours, dès que je vais rentrer, nous allons essayer de mettre ça en forme. D'ailleurs, ce sera aussi l'occasion parce qu'il y aura le forum qui est prévu pour cet arrêt. Et je crois que la délégation tropicale viendra encore approfondir, peut-être aller au-delà de ce que j'ai eu pour aller véritablement vers du concret. Parce qu'on veut du pragmatisme. On peut, la Russie nous a aidé avec d'autres pays à ramener la sécurité, à poursuivre d'abord pour maintenir cette sécurité, mais de l'autre côté, nous devons travailler aussi avec la Russie et d'autres pays sur le volet économique pour faire face aux multiples défis auxquels le monde entier est confronté et également la Russie.
Bon, d'accord. Et Monsieur Moulot, alors en décembre dernier, comme vous le savez, un colis piégé a explosé dans les mains du directeur général de la maison russe à Bangui. Alors que pourriez-vous dire de cet attentat?
D'abord, nous avons condamné énergiquement cet acte de terrorisme. Ça, c'est véritablement du terrorisme. Je suis heureux d'avoir profité de ma visite pour saluer donc ce digne fils de la Russie qui malheureusement a été victime de cet acte terroriste. Nous prions Dieu et tout le peuple centrafricain nous soutient. Nous prions Dieu que sa situation ça s'améliore. Quand je l'ai vu, j'étais content parce que les choses évoluent assez positivement. Mais je souhaite que ce genre d'acte que la Centrafrique n'a jamais connu et qui commence à naître soit vraiment condamné. Condamné dans sa dernière rigueur. Malheureusement, on se rend compte que certains médias sont passés dessus et n'ont pas, véritablement pas, condamné. Mais nous, nous condamnons cela. Il y a l'enquête qui se poursuit. Aujourd'hui, nous n'avons aucun élément pour le moment. Ce sont encore des éléments d'enquête. Attendons d'avoir la conclusion et on avisera.
Et est-ce qu'il y a une coopération avec la Russie dans le cadre de l'enquête?
Nous sommes obligés d'écouter tout le monde. Mais comme il y a un comité qui travaille dans ce sens, donc ce n'est pas l'occasion aujourd'hui d'aborder les questions de cette enquête. Mais je crois que toutes les parties prenantes donneront également leur avis sur le déroulement de cette enquête.
D'accord. Et est-ce que vous soupçonnez quelqu'un d'être derrière cet acte? Bon. Qui est à l'origine de cet acte?
Non, c'est-à-dire que soupçonner, il faut avoir des éléments concrets. Soupçonner, vous savez, ça risque d'amener sur une autre voie qui risque de fausser les choses. Laissons les enquêtes se dérouler. Et dès qu'on aura les éléments, sur cette base-là, nous pourrons communiquer de manière vraiment... de manière trop claire, de manière vraiment responsable.
D'accord. Alors, revenons à la question de coopération avec la Russie. Alors, lors de votre dernière visite, il a été question de faire venir des investisseurs russes en RCA. Alors, est-ce que vous avez eu du succès à cet égard? Quelles entreprises russes sont déjà présentes en RCA, lesquelles viennent venir dans un avenir proche?
Voilà.
Ou bien dans quel domaine?
Ouais, mais comme je l'ai dit, nous avons eu des idées, nous travaillons sur le contenu maintenant. Nous avons aussi un autre instrument, c'est le BRICS.
Ouais.
Vous savez que la Russie est partie prenante dans le BRICS. Nous avons reçu une délégation de BRICS. Et d'ailleurs, nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction que le siège de l'Afrique centrale de BRICS sera à Bangui. Je viens de discuter aussi avec le ministre des Affaires étrangères pour voir les opportunités que nous pouvons saisir à travers le BRICS. J'aurai à mon retour certainement des échanges avec les ambassadeurs de différents pays concernés pour voir comment nous pouvons pousser pour que nos pays puissent tirer profit de ces opportunités. Et comme je l'ai dit, la Centrafricaine est ouverte et tient donc aux questions de développement, tient aux questions d'amélioration des conditions de vie de sa population. Donc, va travailler dans ce sens. Et c'est aussi une possibilité d'avoir des hommes d'affaires. Et d'ailleurs, le chef d'État a instruit le gouvernement pour améliorer le climat des affaires. Et donc, ce n'est qu'à cela que ce sera d'autres instruments qui permettra donc aux investisseurs de différents pays, dont les pays de BRICS, à venir en République centrafricaine et nous aider donc à mettre en valeur les potentialités que le bon Dieu a bien voulu nous donner.
Alors, si on veut parler des nouvelles opportunités que ce siège apportera au pays, ce sont plutôt des investissements dans le pays. Oui, y a-t-il d'autres opportunités que ça ouvre au pays?
Oui, mais vous savez, ce pays, c'est un vaste chantier. C'est un pays enclavé, et d'ailleurs, nous devons... transformer en opportunité. Il faut désenclaver ce pays, donc il y a toutes les questions d'infrastructure. Il faut moderniser l'agriculture, mais quand on modernise l'agriculture, on va vers l'agro-business, donc il y a la question d'énergie. Donc nous devons travailler pour avoir suffisamment d'énergie pour aller vers la transformation. D'abord, avoir l'autosuffisance alimentaire et pourquoi pas aller aussi importer, exporter plutôt, parce que nous avons toujours l'habitude d'importer. Nos potentialités, si mises en valeur, pourraient également intéresser d'autres pays. Et ça pourrait créer des chaînes de valeur et régler le problème des emplois. Parce que vous savez, plus nos jeunes sont manipulés dans les groupes armés, c'est parce qu'il n'y a pas de perspective. Mais si nous développons nos secteurs, si nous allons vers la diversification de notre économie, nous allons créer des emplois à ces jeunes, parce que nous représentons aujourd'hui dans notre pays une forte proportion des jeunes. Il faut utiliser cette potentialité pour que ça soit utile pour l'économie. Vous savez, c'est d'ailleurs le dividende démographique. Donc, créer les conditions pour que ces jeunes participent donc à la croissance de l'économie. Alors donc, ce sont ces défis-là sur lesquels nous travaillons aujourd'hui avec les orientations que le chef d'État nous a données dans nos gouvernements. Et c'est pour ça que dans mes discussions avec nos partenaires, pour un partenariat gagnant-gagnant, nous posons toujours ces questions pour que l'attention soit accordée à cela, pour nous créer les conditions pour que nos populations puissent gagner et les populations de nos pays frères puissent également gagner.
Mais quand est-ce que ce siège de BRICS en Centrafrique pourrait être inauguré ? Y a-t-il une date précise ?
Non, pour le moment, non. C'est le principe a été acquis. Nous travaillons maintenant pour voir qu'est-ce que nous pourrons faire. D'ailleurs, quand la délégation était passée, il avait été question de voir par où commencer le plus rapidement. Parce que tout le monde veut du concret. Et bon, je vais y travailler de mon retour pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer déjà aux mains de BRICS pour dire que, voilà, à partir de là, nous avons un instrument pour aller aussi vers le développement et renforcer nos coopérations avec nos paysans.
D'accord. Et pour la coopération militaire avec la Russie, alors c'est l'un des axes les plus forts de nos relations entre nos deux pays. De quels nouveaux résultats peut-on parler ?
Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, la situation sécuritaire s'est beaucoup améliorée. Beaucoup améliorée à la satisfaction de toute la population. Et d'ailleurs, la population demande encore plus la présence de l'armée russe pour complètement endiguer les actions des groupes armés.
Et est-ce que vous allez demander une augmentation du nombre de...
Je vais demander que cette coopération en matière de défense soit renforcée. Je vais certainement discuter avec le ministre de la Défense pour voir quel type, comment nous devons poursuivre cette coopération pour que ça soit vraiment exemplaire, parce que nous avons aujourd'hui tiré profit, qu'on le veuille ou pas. C'est à l'évidence qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'améliorations. C'est pour ça que, je l'ai dit, il faut rapidement aller aussi vers le développement pour que l'ensemble de tout ça puisse donner des résultats qui soient visibles et qui pourraient, pourquoi pas, être des exemples à suivre.
Oui, mais dans quel... Alors, comment vous souhaitez renforcer cette coopération ? Dans quel aspect ?
Oui, mais aujourd'hui, il y a des questions de formation qui doivent se poursuivre. Okay. Donc, peut-être avec beaucoup d'autres instructeurs qui poursuivent cela. C'est aussi des équipements. Il faut former nos jeunes. Il faut leur donner la possibilité, donc, eux-mêmes de faire face au front. Parce que c'est une coopération, mais il faut tirer profit de cette coopération par le renforcement des capacités. Le cadre des officiers, aller vers la formation des bourses, pourquoi pas, nous avons déjà des jeunes qui viennent ici en formation, il faut poursuivre cela pour qu'on ait des gens dignes, des gens bien formés. Pour faire face à toutes les opportunités qui peuvent souffrir.
Y a-t-il des équipements militaires précis que vous intéressent ?
On verra avec la discussion que j'aurai avec le ministre. Je ne peux pas anticiper cela. Peut-être que il faut qu'on discute pour déjà faire l'état des lieux et puis maintenant voir là où on peut renforcer. Mais en tout cas, c'est sur le table. Nous avons besoin de cela parce que ça produit des fruits. Donc, je crois qu'il faut poursuivre, il faut renforcer, il faut protéger cela. Parce que nous avons toujours des ennemis de la paix qui menacent, qui font des incursions, qui voilà. Donc, il faut arrêter avec ça. Et d'ailleurs, le chef d'État, il tend toujours la main parce que vous avez quand même une superficie aussi vaste. Avec la taille de la population qui n'est pas aussi exagérée. Si nous nous mettons à travailler ensemble, nous ne pouvons pas continuer à entretenir des rébellions pour rien du tout, qui constituent donc des épreuves à la population. Il faut laisser la population plutôt savourer donc des biens que Dieu a donnés. Mais certains veulent être dans la logique du conflit. Peut-être qu'ils tirent profit avec les ressources du sous-sol qu'ils peuvent avoir facilement. Mais je crois que tout ça, avec la coopération que nous allons développer, on arrivera donc à mettre fin à cela. Nous espérons énormément.
Bon, vous avez touché la question des frontières. Alors oui, le Soudan vient de fermer ses frontières avec la RCA. Les tensions à la frontière avec le Tchad se poursuivent aussi. Alors comment le gouvernement compte-t-il sécuriser les frontières et comment la Russie pourrait aider dans cet
égard? Non, je parlais un peu aussi de nos frontières. Ce que nous attendons de la communauté internationale de la Russie, c'est de nous aider dans les commissions mixtes. Mmh. Voilà, donc il faut organiser les commissions mixtes pour que les deux États se parlent avec les experts pour examiner ces questions et voir quelles sont les dispositions qui peuvent être prises pour que, de deux côtés, que nous nous aidons pour qu'il y ait la paix dans nos pays. Alors donc, l'appel que je lance, c'est qu'il faut aller vers les commissions mixtes. Ce n'est qu'à dans ce cadre-là qu'on peut régler beaucoup de problèmes.
D'accord. Il est signalé que suite au départ des militaires français de la base de Mpoko, il y a des militaires et des légionnaires français qui reviennent auprès de divers ONG en RCA. C'est le directeur général de la police qui me dit ça. Alors, que pensez-vous la France essaye de faire?
Non, je ne vais pas commenter la décision d'un pays souverain. Et nous aussi, nous revendiquons la souveraineté de notre pays. C'est une décision, peut-être par rapport à des éléments qui nous échappent. Ce pays a décidé de retirer ces éléments.
Oui, mais récemment, deux Français ont été arrêtés.
Le problème, c'est que de la même manière, quand nous partons là-bas, même si nous venons en Russie, nous avons des visas.
Merci.
Nous faisons la... Nous demandons à avoir des visas. Avant de venir, moi, Premier ministre, j'ai eu mon visa à l'ambassade de la Russie avant de venir. Nous souhaitons que la RCA également soit respectée de la même manière. Si nous allons de l'autre côté, en Europe, nous demandons, sollicitons des visas. De la même manière, il faut qu'il y ait des visas également. Alors, il s'est trouvé que des éléments sont venus sans visa. Et c'est tout à fait normal qu'en ne respectant pas cela, et que les services puissent relever et empêcher que la libre circulation de ces individus. Bon, alors maintenant, nous serons vigilants de telle manière à ce que si les gens rentrent chez nous de même manière que quand on part chez les gens, nous devons tout faire pour que nous soyons en règle. C'est tout ce que nous demandons. C'est des questions de souveraineté. Les règles sont établies. Nous souhaitons vivement, pour éviter que ça soit interprété autrement, que nous respectons ces règles-là. Il se trouve que les éléments sont arrivés sans les visas. Vous avez des visas expirés. Ouais, ça donne libre-échange à beaucoup d'interprétations. Alors donc, nous ne voulons pas rentrer dans ce genre de débat, ce genre de discussion. Ce que nous cherchons, c'est d'être en bons termes avec tous les pays. Nous ne développons pas d'animosité avec certains pays. Le président de la République l'a dit, nous sommes ouverts à développer des coopérations avec tous les pays, mais que ça soit une coopération win-win. Voilà. Et que ça soit transparent. Voilà. Donc, c'est dans ce sens que nous travaillons.
Et comment Bangui compte-t-elle rétablir un climat de confiance avec Paris?
Mais non, Bangui n'a pas de problème avec Paris. Bon, soyez rassurés. Bangui n'a pas de problème du tout, ni n'a aucune arrière-pensée. Nous sommes ouverts. Vous voyez, la République centrafricaine est un pays pauvre. Un pays qui n'a subi que des conflits. Un pays qui a des potentialités et qui veut mettre ça en exploitation au bénéfice de sa population. Mais pourquoi aller développer des climats de méfiance avec des pays? Non, on n'a pas les capacités d'aller dans ce sens-là. C'est pour ça que nous évitons au maximum tout débat qui va vers des tensions. Nous voulons un climat apaisé. Nous voulons les intérêts communs que nous défendons au bénéfice de nos populations. C'est tout ce que nous cherchons. Donc, peut-être je n'ai pas l'information, mais je vous rassure que de notre côté, nous sommes ouverts. Voilà. Nous n'avons pas de tension ni avec un pays quelconque, encore moins avec la France et avec d'autres pays. Bien au contraire, nous sommes disposés à échanger. Je suis venu, là, j'ai eu des dialogues. J'étais allé aux États-Unis, j'ai parlé avec les autorités qui s'occupent du secrétariat d'État pour le secrétariat d'État des pays africains, les autorités, j'ai discuté avec eux. On est ouvert, on a discuté, il y a sur les questions de droits de l'homme, ce que nous faisons, je leur ai donné des preuves, j'ai dit que me regardez. Dans ce genre de situation, on peut avoir des dérapages. Il y a des facas qui se sont mal comportés, je leur ai apporté les preuves, que ils ont été radis de la liste. Le tribunal militaire siège, la Cour pénale spéciale siège. Nous faisons tout pour que les choses soient encadrées. S'il y a des bévues, mais évidemment, il faut corriger. On ne peut pas dire que tout marche à 100%. Mais nous sommes dans les dispositions pour que les choses respectent les normes. Mais ce que nous constatons, c'est quoi? C'est qu'on ne parle on ne parle presque pas des exactions commises par les groupes armés et qui sont extrêmement graves, parfois qui tuent même des facas. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Pourquoi? Si on n'en parle pas, on les encourage à continuer alors que d'où est-ce qu'ils arrivent à obtenir ces armes? Il faut qu'on se pose des questions parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers la paix. La population n'a pas besoin de courir de gauche à droite. Nous n'avons connu que ça depuis l'indépendance. Que des coups d'État, que des soubresauts, que de ça. Mais arrivant à un certain moment, dans ce monde moderne, il faut aller vers l'apaisement, vers des intérêts communs qui puissent être utiles pour des populations. Et voilà ce que c'est la vision du président de la République, le professeur Foussin Kachmadel, et que nous suivons, nous essayons de faire passer dans ce message. Donc, c'est pour vous dire que la RCA, elle est entièrement ouverte à tout moment pour échanger des questions bilatérales. C'est des questions bilatérales et c'est des questions de souveraineté. On ne peut pas dire à un pays de faire ce que ce pays ne veut pas. Donc, c'est mieux de s'asseoir autour d'une table et d'échanger, de voir qu'est-ce qui peut être utile pour être retenu dans le cadre d'une coopération.
Chers auditeurs, le moment est venu de faire une courte pause. Nous revenons très vite avec le Premier ministre centrafricain Félix Moulois. Il nous parlera notamment des marchandises que son pays pourrait exporter à la Russie et des solutions possibles à la crise du carburant. A tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique. De retour sur Spoutnik Afrique, vous écoutez Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous sommes avec Félix Moulois, Premier ministre de la République centrafricaine qui nous a accordé un entretien exclusif.
Alors, pour la coopération avec, économique avec la Russie, alors comment nos deux pays gèrent-ils les questions bancaires et commerciales suite aux sanctions imposées à la Russie?
C'est peut-être dans le cadre du BRICS que nous allons débattre de ces questions. Okay. Voilà, parce que c'est la question aussi d'échanges commerciaux. Mais comme tu l'as dit, nous devons tous y travailler pour voir quelles sont les bonnes manières de pratiquer ces échanges pour que ça soit utile. Bon, il y a les sanctions qui sont là, mais maintenant, ça fait partie des données. Si nous voulons poursuivre cette coopération, nous devons tous nous asseoir, voir quelle est la possibilité de travailler là-dessus. Je vous assure que nous sommes en train de construire cette coopération.
Alors, il n'y a pas d'échanges commerciaux encore avec la Russie?
Non, pour le moment, non. Nous travaillons dessus, c'est pour ça que je suis là. Je l'ai dit, nous cherchons les meilleurs moyens d'asseoir cela. La coopération qui était vraiment prioritaire, c'était au niveau de la défense, parce que le pays était menacé. Aujourd'hui, comme nous allons vers la maîtrise des questions sécuritaires, maintenant, il faut parallèlement commencer à développer les questions économiques.
D'accord. Et que souhaitez-vous exporter vers la Russie dans l'avenir?
Mais vous savez, comme je l'ai dit, on a beaucoup de potentialités. Nous avons les minéraux, nous avons le bois, nous avons les sols, l'agriculture, nous avons peut-être les questions culturelles, il y a le tourisme, il y a beaucoup de secteurs sur lesquels nous pouvons travailler. Et puis aussi, comment communiquer sur nos richesses, comment communiquer sur notre coopération. Il y a beaucoup de volets sur lesquels, je vous assure, il y en a. Nous espérons que les échanges que nous menons aujourd'hui pourraient éventuellement nous permettre de faire des choses mieux, que ce soit visible et que nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, d'en parler.
Et est-ce que l'implémentation du système de paiement russe MIR est-il sur la table de discussion en Centrafrique, je veux dire?
Non, mais comme je l'ai dit, c'est trop tôt d'en parler maintenant. Okay. Voilà. Donc, prenez votre mal à patience. Donnez-nous le temps d'abord d'approfondir toutes les questions. Parce que il n'y a pas que la République centrafricaine, il y a les pays africains aussi. Donc, vous voyez, peut-être lors de du forum, c'est des questions qui seront débattues. Donc, de là, dans les échanges, j'amènerai certainement des idées et comment, dans l'évolution de ce monde en ce moment, comment entretenir une coopération win-win. C'est ça.
D'accord. Et alors, monsieur le Premier ministre, actuellement, il y a une crise de carburant en Centrafrique. Les prix sont trop élevés. Alors, est-ce que cette question, est-ce que vous allez échanger avec les responsables russes pour trouver des solutions à ce problème?
Bon, vous savez, aujourd'hui, aucun pays n'échappe à cela.
Ouais.
Évidemment, la Centrafricaine est certainement le dernier pays à revoir ses prix à la pompe. Nous avons pensé qu'il ne fallait pas ajouter de la souffrance au peuple centrafricain, qui est déjà un peuple résilient. Nous avons maintenu les prix anciens. Nous avons passé le gouvernement subvention.
Oui, mais la subvention a été retirée.
Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons dit, retirons la subvention parce qu'il faudrait que l'État soit en mesure de faire face à ses obligations. Et maintenant, en attendant l'évolution au niveau international, nous pourrons aussi. Je suis venu aussi informer les autorités russes des mesures que nous avons prises. Et aussi voir dans quelles possibilités est-ce que c'est possible de réfléchir sur la question. Voilà. Donc, j'aurai l'occasion de les informer au moins pour dire. Voilà, c'est la mesure que nous avons prise parce que voilà le contexte. Et dans nos discussions, s'il y a certainement, est-ce qu'on peut avoir des possibilités d'échanger précisément sur la question, nous verrons. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le gouvernement tente de voir avec tous les autres pays comment les choses évoluent. Parce que, vous savez, ça crée l'inflation. Et là, ce n'est pas qu'en République centrafricaine. Et ça, c'est le monde entier. Il y a des pays africains qui sont même nantis et qui ont revu leur prix à la hausse. Alors, donc, vous voyez, à plus forte raison, la République centrafricaine, qui est un pays enclavé, va aussi faire face et surtout aussi subir des pressions. Vous savez, c'est depuis plus de 3 ans que nous ne bénéficions plus des appuis budgétaires. Alors donc, toutes ces questions, nous expliquons aux populations. Effectivement, certains profitent pour manipuler, pour demander à cette population d'aller dans la rue, pour créer du désordre. Mais c'est question de responsabilité. Nous avons attendu et nous avons pris ces mesures en se disant que en activant d'autres leviers, et si la situation nous arrivons à maîtriser, certainement que nous reviendrons là-dessus pour voir. Et puis aussi, il faut se dire, et les travailleurs, ils attendent aussi. Mais on ne peut pas faire des promesses parce que on est dans un contexte qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres, les variables. Donc, nous développons la résilience. Et nous, c'est le langage que nous tenons donc aux partenaires sociaux, et nous pourrions, au vu de l'évolution, voir ce que nous pouvons faire. Donc, il faudrait mettre tout le monde en confiance. Mais vous savez, c'est dans les eaux troubles que les gens veulent pêcher. Alors donc, certains profitent de cette occasion pour chercher à mener du trouble. Et le gouvernement, sur les instructions du chef d'État, est en train de poursuivre des échanges avec tous les partenaires sociaux. Et aussi, moi, dans mes déplacements, j'informe aussi nos partenaires et je vais en parler aussi avec les autorités russes sur la question, de voir s'il y a des possibilités. Bon, on verra bien.
Et ma dernière question, alors maintenant suite à la crise ukrainienne et les armes que l'Occident donne à l'Ukraine, il y a beaucoup de dirigeants africains qui sont inquiets que ces armes pourront finir en Afrique. Alors est-ce que la RCA partage cette inquiétude?
Bon, franchement, nous n'avons pas encore débattu de ça au niveau du gouvernement. S'il faudrait donner mon point de vue, c'est que la RCA, comme son président, prône le dialogue. Notre souhait, c'est que ce que nous avons vécu aussi chez nous, les conflits, ne apporte rien à la population. Nous souhaitons vivement, ça c'est mon point de vue, qu'il y ait un dialogue à un certain niveau, parce que nous sommes un pays trop petit. Nous ne pouvons pas nous ingérer dans des discussions géopolitiques. C'est pour ça que nous entretenons des pays qui veulent nous aider. Nous entretenons de bonnes relations avec ces pays-là pour le développement de notre pays. Donc, rentrer dans ce débat géopolitique pour nous n'est pas opportun. Alors, donc, nos voeux, c'est que le dialogue puisse trouver raison et pour qu'il y ait la paix dans le monde, que les populations vivent en parfaite harmonie.
D'accord, merci beaucoup. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, je finis mes questions.
Mais c'est à moi de vous remercier. Je suis toujours ravi, à chaque fois de mon passage ici, de m'entretenir avec vous.
Merci beaucoup.
C'était Félix Moulois, Premier ministre de la République centrafricaine. Il a évoqué à notre micro les objectifs de sa récente visite à Moscou et les perspectives du développement de la coopération entre la RCA et la Russie. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Ici Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Nous prenons dès à présent la direction du Parlement européen. Le 19 janvier, les eurodéputés réunis à Strasbourg ont voté avec une écrasante majorité une résolution portant sur la création d'un tribunal international spécial ayant pour but de juger la Russie pour son opération spéciale en Ukraine. Ce n'est pas la première fois que les eurodéputés votent un tel document qui, rappelons-le, est d'une portée purement symbolique. En novembre dernier, ils avaient adopté une résolution faisant de la Russie un État sponsor du terrorisme. Thierry Mariani, membre du Parlement européen, avait par ailleurs commenté à notre micro cette décision en estimant qu'elle contribue à l'escalade du conflit plutôt qu'à proposer la paix. Hervé Juvin, un autre député français, a fait partie des rares élus à avoir voté contre la nouvelle résolution. Il s'est exprimé à notre micro sur la portée de cette décision du Parlement européen. Écoutez notre entretien. Bonjour Monsieur Juvin, merci d'avoir accepté notre invitation. Une résolution pour créer un tribunal spécial qui devait juger les actions russes et biélorusses en Ukraine a été votée aujourd'hui. Que pensez-vous concernant ce vote ? Pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez voté contre cette résolution ?
Alors d'abord, la résolution s'inscrit dans la croyance politique de l'Union européenne qu'on peut mettre fin au débat politique et on peut mettre fin aux confrontations politiques par le droit en ajoutant sans cesse plus de normes, plus de réglementations et en ayant recours à la justice. C'est une tendance qui s'est observée notamment aux États-Unis, puisqu'il y a eu un grand courant aux États-Unis pour criminaliser les actions politiques des pays hostiles aux États-Unis. C'est ainsi que certains auraient voulu que l'Arabie Saoudite soit pénalement jugée responsable d'avoir abrité Ben Laden. C'est pour moi quelque chose de très grave. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une illusion. On ne mettra pas fin à la politique par le droit. Ensuite, parce que c'est évidemment un détournement de la justice, puisque ça sera toujours la justice des plus forts ou des vainqueurs. Les vaincus ont toujours tort. Et c'est une illusion totale de penser qu'on va mettre fin à la politique et on va mettre fin aux affrontements nationaux par le droit. J'observe par ailleurs que des grands pays attachés à leur souveraineté, comme Israël, comme les États-Unis, comme bien d'autres, ne reconnaissent ni le tribunal pénal international, ni les cours de justice internationales. C'est ainsi que le gouvernement israélien, et pour moi à juste titre, a dit qu'aucun des militaires impliqués dans l'assassinat d'une journaliste d'Al Jazeera en Palestine ne serait entendu ni ne serait déféré à aucun tribunal international. Un pays qui tient à sa souveraineté ne peut pas accepter le principe de juridiction internationale dans les domaines de sa sécurité et dans les domaines des opérations militaires qu'il peut être amené à conduire. J'observe par ailleurs, si on voulait réunir un tribunal spécial ou un tribunal international pour juger des crimes de guerre, il est clair que ceux qui ont inventé de toutes pièces des documents montrant que l'Irak avait des armes de destruction massive, ceux qui ont, sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, décidé d'intervenir, de bombarder, de tuer des civils en Serbie, ceux qui continuent de mettre en jeu la vie de centaines de milliers, voire de millions de Syriens par des sanctions économiques injustes, tout cela devrait être déféré devant un tribunal international. Donc je souligne le côté inégal et injuste d'une telle procédure, mais je souligne surtout que politiquement, il n'a pas de sens. Politiquement, ça aboutit à supprimer la souveraineté des nations.
Vous avez déjà qualifié l'OTAN de principale menace pour la paix. Ne pensez-vous pas que ce vote pourrait ajouter des tensions dans les relations entre la Russie et l'OTAN et a amené à une escalade ?
En politique, il faut laisser toutes les issues ouvertes. On sait qu'un certain nombre des dictateurs les plus horribles des dernières décennies, on a mis fin à leur dictature, tout simplement en leur promettant qu'ils vivraient bien jusqu'à la fin de leur jour, à l'abri de toute poursuite. Il faut évidemment garder toutes les possibilités ouvertes en politique. C'est pourquoi l'idée qu'on va se débarrasser de dictateurs ou qu'on va mettre fin à des régimes injustes en poursuivant leurs responsables est politiquement inepte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'OTAN n'est évidemment pas la seule force qui peut menacer la paix. Mais les révélations d'Angela Merkel sur la manipulation et le mensonge des accords de Minsk, dont Mme Merkel, confirmée par M. Hollande, ont dit qu'il s'agissait simplement de permettre à l'Ukraine de s'armer et de faire face à toute éventualité face à la Russie, les documents qui viennent d'être publiés par Wikileaks, qui montre que les officiels américains, notamment l'actuel patron de la CIA, avaient à de multiples reprises alerté les autorités américaines en disant que toute extension de l'OTAN à l'Ukraine était un casus belli pour la Russie, que c'était absolument insupportable pour la Russie. Et simplement, les néocons ou les faucons de Washington n'ont pas voulu entendre les avertissements des professionnels de la communauté du renseignement ou des militaires. C'est tout ça qui me fait dire que la procédure d'encerclement de la Russie, puisque le drame historique de la Russie, c'est de ne pas avoir de frontières naturelles à l'ouest. Donc la menace de l'encerclement graduel par l'OTAN de la Russie, de l'entrée dans l'OTAN d'un nombre croissant des pays de l'Est, d'armes de destruction massive positionnées aux frontières immédiates de la Russie, évidemment que c'était un pouce au crime ou un pouce à la guerre, et évidemment que la Russie est engagée dans une guerre qu'elle ne peut pas perdre.
C'était Hervé Juvin, eurodéputé français. Il est revenu sur la résolution adoptée par le Parlement européen sur la création d'un tribunal international pour la Russie. Rappelons que M. Juvin a voté contre. Chers auditeurs, Zone de Contact, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, Je vous retrouve très vite au micro sur le ring de la géopolitique mondiale pour commenter ces dernières évolutions. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.